Le réchauffement climatique, on vous en parle régulièrement dans cette émission. Tout récemment encore, nous avons évoqué les conséquences de ce réchauffement en montagne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donc plutôt aller sur le littoral. Vous savez sans doute que les scientifiques ont avancé un chiffre. Le niveau de la mer pourrait augmenter d'un mètre d'ici 2100. Alors bien sûr, en de nombreux endroits, c'est l'inquiétude. On tente d'anticiper comme c'est possible, dans les endroits touristiques bien sûr, mais pas seulement. Et c'est peut-être plus encore le cas dans le département de l'Hérault en France, aux portes de Montpellier. Là-bas, sur 90 km, l'eau est littéralement à fleur de terre. Depuis les années 60, sous l'impulsion de l'État qui voulait capter un tourisme de masse, des centaines de campings et de résidences de tourisme se sont installés là-bas, mais certains ont déjà les pieds dans l'eau et d'autres s'interrogent, faut-il construire autrement ou faut-il partir? Et pour aller où? C'est évidemment des questions centrales. Ce sont des questions que Frédéric Faux aborde à travers son reportage sur les côtes de l'Hérault, juste au sud de Montpellier.
Frontignan-Plage, dans le département de l'Hérault. Une fine bande de sable entre lagunes et Méditerranée. Des maisons et des résidences de tourisme construites au bord de l'eau. C'est pour ce privilège qu'Arlette et François ont acheté ici, il y a 30 ans. Mais depuis, les choses ont changé. D'abord, la plage a reculé.
Ça a vraiment diminué au moins de 50 mètres. Ils ont mis du sable, des cailloux, etc. pour protéger un petit peu, parce que l'eau, quelquefois, rentrait dans la résidence. Une cinquantaine d'années, je pense qu'ici, ça sera un petit peu limite, en tout cas. C'est vrai qu'on est vraiment en bord de plage, et puis au train où vont les choses, voilà, ça ne va pas s'améliorer.
Et si les prévisions de hausse du niveau de la mer sont respectées, il faudra même, avant la fin du siècle, évacuer les habitants.
On a du mal à s'y faire. Oui, c'est difficile à imaginer, oui. D'ailleurs, la maison qu'on occupe, elle a été construite avec un mètre de plus par rapport au niveau naturel, parce que c'était le règlement d'urbanisme à l'époque. Donc il prévoyait de protéger déjà les personnes habitant dans le quartier.
L'Hérault, pour beaucoup de Français et même d'Européens, est synonyme de vacances à la mer. Dans les années 60, les autorités y avaient encouragé la construction de stations balnéaires afin de retenir les touristes qui se dirigeaient alors vers l'Espagne. À la Grande Motte, au Cap d'Agde, à Palavas, le littoral a été urbanisé. Le trait de côte a été figé alors que les fleuves amènent de moins en moins d'alluvions, que les tempêtes rongent le littoral. Et parfois, il n'en reste plus rien. Comme à Vias, où l'adjoint au maire, Bernard Saucerotte, nous emmène jusqu'à une digue de rochers noirs où viennent battre les vagues.
Ce sont des propriétaires privées qui, pendant sur certaines distances, ont mis des protections avec des enrochements sur leur bord de propriété pour empêcher que l'érosion leur enlève leur bien.
Mais là, il n'y a plus du tout de plage, là.
Il n'y en a plus. Quand il y a des rochers, il n'y a plus de plage.
Un peu plus loin sur la côte, il reste quelques mètres de sable. Mais ils ne doivent leur survie qu'à la pose de big bags, de gros sacs de sable qui font que la plage ressemble plus à un chantier qu'à un lieu de vacances.
On a récupéré des milliers de mètres cubes avec une barge. On est arrivé, on a refait une dune. Et vous voyez l'érosion qui est là, on n'est toujours pas à l'abri. Il y a encore des enrochements qui correspondent au camping Le Petit Mousse, qui lui a reculé puisqu'il avait une maison qui était dans l'eau. Donc si on ne fait pas la protection en mer, cette dune va partir et toute notre économie et tous ces gens vont tout perdre.
Dans la voiture, pour rejoindre le centre de Vias, nous traversons une zone plate, un véritable champ de bungalows et de mobilhomes. Avec ses 31 campings, Vias est la deuxième plus grande zone d'hôtellerie en plein air en Europe.
Au début des années 60, c'était des vignes, on va dire, de sable, dont la rentabilité n'était pas exceptionnelle. Et en fait, ce sont les agriculteurs viassois qui ont vendu leur terrain. Dès qu'on a déclenché les vacances au bord de la mer, les gens sont arrivés, ils ont acheté des petits terrains, ils ont vécu dans des caravanes ou des petits cabanons. Et puis petit à petit, ils se sont sédentarisés. Alors vous voyez les cabanons, voilà. Et donc on a travaillé pendant 4 ans, on leur a expliqué que la mer allait monter, qu'il y avait des modifications. Alors à long terme, tout le monde dégage, il n'y aura plus rien. Ça, la question ne se pose pas. Dans le court terme, on peut avoir des tempêtes. Ce qui est le plus dangereux pour les 30 ans, en fait, ce sont les tempêtes. Pour l'instant, la montée de la mer, ce n'est pas ce qui va nous gêner le plus. Mais s'il y a une tempête très forte, il peut y avoir de gros dégâts.
Nous arrivons finalement à Vias Est. Ici, la plage est protégée. Et surprise, on continue d'y investir. Des travaux sont en cours dans une rue commerçante bordée de boutiques et de restaurants.
Voilà une avenue, et là pour l'instant on en a 250 mètres. Et là on est en train de faire, il y aura 400 mètres de commerce de part et d'autre, avec un résultat exceptionnel puisqu'il y a de plus en plus de monde. Il y a les touristes qui viennent, plus des personnes de la région qui viennent pour se promener dans cette zone.
À une époque on dit qu'il y a l'érosion, qu'il y a l'eau qui monte, qu'on déconstruit. Vous construisez tout près de l'eau.
Oui, alors c'est pas ça, c'est que cette zone commerciale existe déjà depuis 1985. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive et que c'était pas en bon état, à quoi ça nous sert de rester là pendant 40 ans et de voir passer les voitures qui vont en Espagne? Est-ce que nous, on n'a pas le droit d'avoir de l'économie chez nous et de créer de l'emploi? Donc ce qu'il faut toujours calculer, c'est le temps de l'amortissement. Si nous faisons des travaux et que ça tient pendant 40 ans, oui, dans 40 ans, on l'a amorti, on a fait vivre les gens, on a créé de l'emploi.
Les élus tentent de gagner du temps en misant sur les nouvelles avancées technologiques. Vias compte sur S-Able, un système de filets posé au fond de la mer afin de fixer le sable, déjà expérimenté avec succès sur la côte atlantique. À côté, sur le lido de Sète, des boudins remplis de sable ont été mis dans l'eau pour affaiblir les vagues. Et surtout, sur 12 kilomètres, la route qui longeait la plage a été reculée. Une dune a été reconstituée. On ne circule plus qu'à pied ou à vélo. Les habitants un peu rebelles de la ville natale de Georges Brassens, qui avaient l'habitude de se garer les pieds dans l'eau, n'apprécient pas tous. Comme Michel, qui regrette son ancien littoral.
C'était juste la route et on voyait le bord de plage tout au bord, on pouvait se garer, aller se baigner, faire des barbecues, c'était le top. C'était chaque voiture garée qui avait son coin de plage.
Mais pour le maire de Sète, François Comain, l'objectif de ces travaux pionniers en Méditerranée qui ont coûté plus de 50 millions d'euros a été atteint.
Effectivement, on s'aperçoit que l'érosion est maîtrisée, le cordon lunaire s'engraisse d'année en année, avec des plages qui ont retrouvé 60 mètres de largeur, alors qu'à certains moments, il n'y avait plus du tout de plage. Ça ne sert à rien de vouloir bloquer la mer, on n'y arrive pas. En mettant des enrochements, au contraire, ça aggrave le phénomène, parce que les vagues viennent buter sur les enrochements, elles repartent tout aussi vite au large, et en repartant vite, elles emportent les sédiments au large. Donc c'est l'échec le plus total. Là, par contre, le principe, c'était de laisser la nature faire son œuvre, et la vague, si on arrive à réduire sa puissance par ces boudins atténuateurs de houle, ça permet d'avoir la vague qui va venir mourir sur la rive avec moins de puissance et au lieu d'emporter les sédiments, va déposer les sédiments qui viennent du large.
Agir sur la mer est une solution, mais il y en a une autre qui est explorée, celle de l'habitat sur terre, qui pourrait s'adapter à la montée des eaux.
Du jury Innovation et Résilience, du concours d'idées Habiter le littoral demain, ont été attribués à l'agence Archil. Ce prix étant remis par le président Kéber Esquiva.
Début février, à Montpellier, on remettait les prix d'un concours intitulé Habiter le littoral demain. Son objet, penser l'aménagement d'un quartier situé en bord de mer à l'horizon 2050. Parmi les architectes qui ont relevé le défi, Laura Nave et son équipe ont proposé des immeubles en bois reliés par des passerelles qui évoquent irrésistiblement les tropiques.
Le principe, c'était donc des pilotis et d'avoir des planchers qui, au fur et à mesure, puissent potentiellement être réutilisés et remontés ou démontés pour aller ailleurs. Et donc à l'intérieur après de l'immeuble, il y a toute une façade côté mer qui est en effet avec ses anneaux d'amarrage, avec les filets de protection et les grilles anti-débris qui permettent de protéger une seconde peau en arrière qui est la façade avec les menuiseries telles qu'on peut connaître aujourd'hui et qui permet de créer un lieu d'entre-deux avec des terrasses, des jardins cultivés comme une protection.
Et donc l'idée, c'est que si le niveau de l'eau monte, eh bien on monte les planchers, quoi. On monte ces étages.
C'est ça, on peut remonter les étages. Il y a des renforcements à faire certainement au niveau des pilotis.
Karim Layani, lui, a imaginé un habitat encore plus léger. Des cabanes flottant sur des matelas de roseaux à destination des touristes. Une idée inspirée des cabanes traditionnelles qui flottent déjà sur le lac Titicaca en Bolivie.
Ce qui nous a plu dans la proposition qu'on a essayé de formuler, c'est de faire en sorte que l'homme renoue avec son milieu. Et effectivement, sur le lac Titicaca, ce qui est resté, c'est cette idée que l'homme finalement vit sur le lac avec des ressources locales, avec des matières qui s'est réappropriées et qui n'altèrent pas les milieux. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru assez poétique aussi, avec cette question du niveau de l'eau qui monte, qui descend. Et finalement, au lieu de construire de manière fixe, on pourrait juste s'adapter aux cyclicités météorologiques.
Monter, démonter, c'est la solution commune de tous ces architectes qui veulent s'adapter au recul inéluctable du littoral. Mais certains utilisent des matériaux bien plus inattendus, comme Chamas de Maisonneuve.
Alors on bâtit en pierre massive, pierre de taille, parce que déjà c'est un matériau qui est local et c'est un matériau qui est très massif. Et nous, l'habitat, c'est quand même quelque chose qui doit être durable. On doit se protéger des éléments, se protéger de la nature. C'est quelque chose qui nous permet d'être en sécurité par rapport à toutes les forces extérieures. Et donc c'est un choix qui nous a orientés vers la pierre de taille. Et la grande qualité de ce matériau, une de ses plus grandes qualités, c'est que c'est démontable. C'est qu'on peut poser une pierre et dans 100 ans, la reprendre et la poser ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec énormément de monuments qu'on connaît aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la mer, à un moment, elle va venir, il va falloir démonter et reconstruire ailleurs.
Ces projets se sont inspirés d'un cas réel, celui d'un quartier de la commune de Frontignan qui a encore miraculeusement échappé à l'urbanisation, mais où la pression des promoteurs est bien là. Alors faudra-t-il construire, en suivant les idées de ces architectes, ou laisser cet espace vierge? Toutes les options sont ouvertes, sauf une, comme l'explique Michel Arruy, maire de Frontignan, très inspiré par les résultats de ce concours.
Aujourd'hui, dire ce qu'on fera, c'est encore un peu tôt, mais en tout cas, dire que ça sera urbanisé comme ça l'était il y a 20 ans, c'est non. C'est-à-dire du lotissement classique. Ça, je crois que c'est fini, le lotissement classique. Aujourd'hui, je pense qu'il faut, avec le recul du trait de côte, qu'on ait aussi des terrains susceptibles d'avoir une autre forme d'habitat, mais qu'on ne recommence pas les erreurs d'il y a 50 ou 60 ans. Voilà. Mais c'est vrai, quand on parle de pilotis, quand on parle de nouvelles formes architecturales, moi, je trouve que voilà, il y a plein d'idées, en tout cas, qui nous restent. Et c'est ça, aujourd'hui, dont ont besoin les élus, c'est-à-dire d'avoir des prises de position, même qui peuvent paraître des fois très utopistes, mais en tout cas qui nous permettent, nous, de nous projeter dans l'avenir.
Selon le ministère français de la transition écologique, c'est presque un quart des côtes françaises qui sont soumises à un phénomène d'érosion. Et d'ici 2100, au moins 50 000 logements seront concernés par des risques de submersion.